Bonjour Frédéric Huttmann au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Ludmila Berlinskaya, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Arthur Ancel, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est à l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique qui vient de paraître pour le label Alpha Classique. C'est un disque pour piano à quatre mains, après succession de disques où vous étiez deux pianos, avec quatre chefs-d'œuvre de la musique française de la fin du 19e, début 20e, Bizet, Debussy, Fauré, Ravel, des œuvres bien connues mais qui sont très rarement réunies ensemble et qui sont complétées par un autre chef-d'œuvre de Louis Aubert, qui était proche de Ravel, un ami, Feuille d'image. On en parlera bien sûr. Comment est née l'idée de ce disque qui a un fort joli titre, Passage secret, un passage entre l'enfance et l'âge adulte, ou peut-être entre plusieurs mondes merveilleux. Je sais pas qui veut commencer. En général, personne, mais il faudra bien que quelqu'un commence. Allez-y,
Bon,
Arthur.
alors je me lance. Comment c'est né? Un petit peu naturellement. On s'est dit plusieurs fois que si on avait voulu enregistrer ce disque au début de notre duo, ça aurait été une catastrophe. Il se trouve qu'on joue ces cycles, pas dans les mêmes concerts, mais depuis plusieurs années. On a eu le temps de les mûrir, de les jouer de nombreuses fois, de les laisser reposer, de les reprendre. Et comme c'est une musique qui nous est très chère, on avait très envie de la défendre. Et puis on s'est dit que c'était le moment de l'enregistrer. On se sentait prêt. Et puis on s'est aperçu que cette musique, que ces quatre cycles avaient comme particularité d'être parmi les œuvres les plus connues des compositeurs respectifs. Mais curieusement, comme vous l'avez dit, ces quatre cycles ne sont finalement que très peu réunis au disque. Et pourquoi Passage secret? Alors, c'est un peu long à raconter, ça vaut le coup de lire le livret, mais pour le résumer, c'est l'idée que cette musique qu'on associe naturellement, un peu trop souvent, au monde de l'enfance uniquement, c'est bien plus que ça. C'est un passage secret entre les fantaisies d'enfants et le jardin féerique des adultes.
Alors ça s'ouvre. Ah, Ludmila, vous vouliez ajouter autre
Non, non, je
chose?
voulais juste dire petite chose, c'est que on sait très bien tous que quand les enfants jouent, ils jouent au sérieux. Enfin, c'est très sérieux pour eux. Et c'est pour ça, cette musique, il faut prendre aussi absolument au sérieux. Et c'est écrit comme ça. Je pense que c'est pas par hasard que des cinq magnifiques compositeurs, des génies, quoi, qui écrivaient ces pages-là avec tel mot d'amour et tel mot d'envie, parce que c'est sûr que évident que pour chacun de ces cinq compositeurs, ces cycles, c'est quelque chose très très cher au cœur, et c'est écrit avec beaucoup beaucoup d'amour. Et donc évidemment, il faut pas oublier qu'ils sont tous les adultes, ils nous aussi. Et d'un côté, nous sommes tous envie d'être enfants, et revenir au monde d'enfance, et peut-être qu'on est les enfants jusqu'à nos morts. Donc c'est ça le passage secret. On ne sait pas où on va en fait, derrière, devant. Enfin, c'est ça.
Je me suis dit, en écoutant ce disque, qu'il y a toujours une popularité des œuvres liées à l'enfance. Un des plus grands tubes de Schumann pour le piano, c'est quand même ses scènes d'enfant. Et puis Ravel, L'enfant et les sortilèges, c'est une œuvre bouleversante. Il y a Les enfantines de Moussorgski, d'autres œuvres liées à l'enfance. À quoi c'est dû le fait que on aime tellement écouter des œuvres qui sont liées à l'enfance, à votre avis?
Je pense que dans toutes ces œuvres, vous n'avez pas cité l'album pour les enfants de Tchaïkovski, qui est aussi quelque chose
Ça, c'est une
d'incontournable.
faute grave, hein, vu les deux personnes que j'ai en face de moi.
En fait, dans toutes ces pièces, ce qu'elles ont en commun, c'est que ce sont des pièces courtes, et avec des caractères forcément extrêmement affirmés pour chacune d'entre elles, et chacune doit être absolument géniale, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a une telle concentration de talent en un coup de pinceau, et avec une image forte. Je pense que c'est ça qui nous séduit aussi tous C'est pas une sonate de 40 minutes avec un développement complexe. Non, il y a toute la complexité, elle se tient en quelques notes. Et on a tous envie de quelque chose de court, bref, intime.
Oui, mais il n'y a pas seulement la brièveté, parce qu'il n'y a pas une œuvre de toutes ces œuvres. Et je crois qu'il y a 32 morceaux en tout dans ces 5 chefs-d'œuvre. Il n'y a pas un morceau qui ne soit pas d'un niveau exceptionnel. Tout est extraordinaire.
Chaque pièce est merveilleuse.
Alors, vous avez choisi un parcours chronologique, en fait, puisque vous ouvrez par Georges Bizet avec ses Jeux d'enfants et vous terminez par Louis Aubert. Le Georges Bizet, ça date de 1871, et le feuille d'image de Louis Aubert de 1930. Après, vous passez par Debussy, Fauré, Ravel. Donc, cet ordre chronologique, il correspondait à un ordre esthétique pour vous, ou alors c'est tombé comme ça par hasard
Oui, quand même. D'ailleurs, c'est un ordre chronologique des œuvres et non pas des compositeurs, puisque Debussy est né après Fauré. Mais il a écrit Petite Suite avant que Dolly ne soit écrite par Fauré. Et oui, il y a une sorte d'évolution esthétique dans l'écriture, bien que, par exemple, l'écriture de Bizet soit en de nombreux points assez révolutionnaire. Pour toutes ces expressions figuratives, les bulles de savon, le saut de mouton, il emploie des procédés d'écriture très, très novateurs pour ces images.
Parmi ses dernières œuvres, en plus, de Bizet.
Oui, puisque c'est 1871, oui. Il est mort en 1875.
Mais il était tout jeune.
Oui. Il faut dire aussi que Bizet, on ne le sait pas toujours, était un pianiste assez formidable. Il aurait pu faire une carrière, il ne l'a pas souhaité, il a préféré se consacrer à la mélodie, l'opéra. Pas beaucoup pour le piano, il y a quelques
beaucoup
œuvres magnifiques.
Beaucoup
trop peu. Oui. Justement, c'est pour ça, c'est étonnant, ce cycle magnifique, absolument, au jeu d'enfant. C'est très virtuose, c'est très bien écrit, oui, et ça se voit qu'il était pianiste, exactement.
Alors, ses œuvres aussi, elles ont un point commun. C'est qu'elles ont toutes, à moins que je ne me trompe, été orchestrées. Alors, pas toujours par le compositeur. Pour ce qui concerne la Petite Suite de Debussy, c'est Bucer qui l'a orchestrée. Mais pour ce qui est des autres, Bizet, c'est lui. Ravel, c'est lui. Et Louis Aubert, c'est lui. Alors, vous m'avez dit hors micro que l'orchestration de cette feuille d'image est magnifique.
Oui, on a presque... On hésite entre allez-y, écoutez-le et non, ne l'écoutez pas. Tellement c'est riche, c'est difficile. Après, je pense presque de revenir à la version piano, tellement l'orchestration de Louis Aubert est extraordinaire. Elle est très opulente, mais avec des couleurs. C'est une œuvre qui devrait être jouée en concert, qui devrait faire partie des répertoires d'orchestre. J'ai déjà envoyé la partition d'ailleurs à plusieurs chefs d'orchestre en disant il faut jouer ça, il faut jouer ça. Mais c'est difficile de bouger les orchestres.
Non, mais déjà, enfin, la musique française, c'est parfois difficile aussi. Bon, là, on va avoir le centenaire, on a en ce moment le centenaire de la mort de Fauré, mais enfin, on peut pas non plus, malgré le génie de ce compositeur, dire qu'on soit abreuvé de musique de Gabriel Fauré.
Oui, d'ailleurs, la seule version qui existe là de feuille d'image pour orchestre, c'est un orchestre allemand qui l'a enregistré. Merci à eux. Mais je pense, pour revenir à ce que vous disiez au départ, c'est que en fait, il y a un passage, une passerelle permanente entre la forme orchestrale et le quatre mains et le deux pianos. Et pour plein de raisons. C'est pour ça que c'est assez logique que ces cycles-là, qui sont aussi géniaux, aient été orchestrés.
Alors, ce programme, vous le donnerez le 22 mars prochain dans ce bel écrin qu'est la salle Cortot. Donc, moi, j'ai plus l'habitude de vous écouter en deux pianos qu'en quatre mains. Donc là, vous allez donner ce programme à quatre mains. C'est quand même une différence. Il y a des différences fondamentales entre l'art du deux pianos et l'art du quatre mains. Vous, on vous entend beaucoup plus dans le répertoire pour deux pianos qui est gigantesque. En plus, on va parler, vous avez créé une académie, vous avez un festival à Rungis qui aura bientôt sa 5e édition. Il y a des masterclass, enfin, il y a énormément de choses. C'est tout un continent que vous nous faites découvrir. Ça aussi, comment c'est venu cette idée de faire découvrir tout ce répertoire? Vous auriez pu vous le garder pour vous sans avoir une volonté de transmettre... C'est venu comme ça au fil
du temps. En deux pianos?
Oui, le deux pianos, le quatre mains.
Je ne sais pas, c'est absolument naturel, cette envie de partager, ça, c'est nécessaire, absolument. Ce n'est pas que nous qui doit jouer ça, au contraire. Il faut que ça joue à part, par beaucoup de pianistes. Il faut que le public attend ça, parce que...
Mais alors justement, maintenant, il y a de plus en plus, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de duos constitués de jeunes. Enfin, on les voit
absolument.
À vos académies.
Absolument.
C'est impressionnant, le nombre de jeunes... Alors, je ne sais pas où est la poule et où est l'œuf. Quand vous avez commencé, il y en avait autant ou c'est vous qui les révélez, tous ces jeunes, Arthur?
Vous êtes jeune aussi. J'en sais rien. j'en sais rien du tout. Mais ça me paraît assez logique qu'il y ait une spécialisation, que les jeunes s'y intéressent aussi. C'est plutôt, à mon avis, parce que ces dernières décennies, on manquait de débouchés et c'est un répertoire assez mal connu finalement, même des pianistes, des professeurs de piano, des professionnels de la musique.
Oui, on cite toujours les mêmes œuvres.
Qui n'incitaient pas les jeunes à découvrir le répertoire. Mais une fois qu'ils l'ont découvert, bien sûr qu'ils se jettent dessus avec autant d'envie parce que c'est rempli de chefs-d'œuvre. Et en plus, il y a cette particularité qui est la joie immense qu'on peut avoir à partager cet instrument avec quelqu'un de proche. C'est une jubilation qui existe nulle part ailleurs. Sinon, sans
doute...
Mais
on ne voit pas deux violonistes sur le même instrument.
Non, non. Non, mais partager le même instrument, ça n'existe nulle part. Alors, on dit que Schubert a tellement écrit pour quatre mains que pour pouvoir effleurer la main de la belle avec qui il jouait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui se passe. D'ailleurs, que ce soit à quatre mains ou à deux pianos, de complicité, de connivence. Et donc c'est
quand même une très grande différence entre les deux.
Oui, alors justement, parce que c'est quand même un travail très très différent
très
quand
différent.
Vous jouez à quatre mains et quand vous jouez à deux pianos.
C'est vraiment très différent, tellement que je pense que c'est impossible, c'est possible, mais c'est très difficile à, par exemple, donner un concert où tu joues à quatre mains et tout de suite après à deux pianos, parce que même psychologiquement, c'est pas du tout le même état d'esprit, sans parler répertoire. Quatre mains, c'est très difficile. Si on joue ça vraiment, sérieusement, si on écoute toutes les nuances, si on écoute tous les silences, il y a un seul pédale, il ne faut pas oublier ça aussi. Puis, ce n'est pas naturel physiquement, parce que ce n'est pas seulement qu'on partage le clavier, mais parfois, quelqu'un qui est plus grand et plus gros que l'autre, il est obligé donc prendre beaucoup plus de place.
Pensez quoi au duo Vienner et Doucet en disant ça, Ludmilla?
Ou à moi-même.
Arrête.
En tout cas, c'est vraiment c'est compliqué et il faut être. Il faut que les oreilles deviennent un seul oreille et pas quatre et qui écoutent tout ce qui se passe en avance. Donc c'est vraiment, oui, c'est pour la première fois qu'on va jouer un concert en entier le 22 mars à Corto pour ce répertoire-là.
Oui, c'est... mais enfin, quand vous jouez à deux pianos, il faut une connivence aussi incroyable et...
Bien sûr, ça c'est évident, mais ça c'est complètement autre chose justement. C'est déjà deux grands pianos, c'est pas du tout la même intimité que quand on partage le clavier. Et d'ailleurs, ça se voit dans la musique, dans les œuvres qui étaient écrites.
Hein. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Arthur, à propos des différences entre jouer à quatre mains et jouer à deux pianos?
Il faut organiser un colloque pour
oui.
ça, tellement il y a de choses à dire. Et c'est vrai que c'est encore une fois mal connu, mal compris, tellement il y a de subtilités au niveau de la création sonore, de l'ensemble, de la pédale, que ce soit à deux pianos ou à quatre mains. Des choses qu'on doit apprendre, nouvelles.
Ce disque Passage secret qui vient de paraître pour le label Alpha Classique, il s'ouvre donc, on l'a dit, par les jeux d'enfants de Bizet. Quelqu'un qui ne vous a jamais vu ou qui n'a jamais vu des pianistes jouer cette œuvre, qui ne sait pas que c'est pour quatre mains, on a presque l'impression que c'est pour deux pianos. Enfin, quand on écoute cette œuvre, c'est d'une telle virtuosité, c'est assez ahurissant de se dire que c'est pour quatre mains.
Et c'est remarquablement bien écrit, justement. Mais oui, il faut être un petit peu sportif. Il faut être capable de... Il faut être très souple. Hein. Il faut bouger les épaules, le dos, pour laisser la place à l'un, à l'autre. Parce que c'est ce qui est très difficile à quatre mains, c'est qu'on n'est pas en face de ce qu'on doit jouer. Donc, c'est pas du tout naturel. On est tout le temps obligé de s'adapter.
Et donc, cette œuvre aussi, ça faisait partie de votre répertoire depuis longtemps ou vous l'avez préparée en vue de cet enregistrement ?
On a commencé déjà il y a, je crois... Ah non, on a joué ça à Bagatelle en 2017, il me semble, donc tu vois.
Alors, après, donc, il y a La Petite Suite de Debussy, qui n'est pas non plus une des œuvres les plus populaires de Debussy. Oui, c'est une merveille, c'est très enthousiasmant.
C'est tellement, tellement riche. Mais attends, je monopolise le micro. Je t'en prie.
Allez-y. Non, vous n'allez pas vous disputer.
C'est La Petite Suite de Debussy, c'est une fausse œuvre simple. Ça a l'air...
Non, rien n'a l'air simple dans ce disque.
Oui, mais cette musique est tellement transparente, simple dans sa construction, dans ses mélodies. On se rend pas compte, en fait, vraiment, on peut pas se rendre compte à quel point l'écriture est d'une immense richesse. Chaque phrasée est pensée, chaque silence.
C'est ça ce qui est très difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de remplissage par les notes. Enfin, c'est très transparent.
On est chez Debussy aussi, quand même.
Oui, et du coup oui, c'est très difficile aussi.
Mais c'est le jeune Debussy, ce n'est pas le Debussy de l'impressionnisme. C'est un Debussy qui est encore très classique dans son écriture, mais qui fait preuve déjà d'un raffinement extrême.
Alors Debussy, vous le connaissez en deux pianos, vous jouez en blanc et noir. Alors ça, c'est l'œuvre beaucoup plus de la maturité.
Antiques, oui. Quatre mains.
Ce sont des œuvres que vous jouez beaucoup. Vous avez beaucoup à votre répertoire les œuvres de Debussy pour deux pianos.
Il y a beaucoup de choses entre les œuvres originales et les transcriptions. Il y a un énorme corpus chez Debussy, comme chez Ravel. Et oui, c'est. On a pratiquement tout joué, on adore ça. C'est vrai qu'En blanc et noir et Les épigraphes antiques sont les deux grands chefs-d'œuvre pour nous. Et malheureusement, c'est des œuvres qu'il n'est pas facile de placer en concert. C'est des œuvres qui sont peut-être plus difficiles.
Pour le public,
oui.
Enfin, pour le public, une fois qu'il est là, il aime. Le problème, c'est pour le faire venir, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça en musique. Les gens sont heureux de les écouter, mais il faut encore qu'ils soient dans la salle. Quoi.
Exactement.
Ce répertoire pour deux pianos, moi, il y a quelque chose qui me frappe, que ce soit quatre mains ou deux pianos, c'est que pour vous avoir écouté l'un et l'autre séparément, chacun dans des concerts où vous étiez en récital, et à maintes reprises, vous avez des jeux quand même très différents, l'un et l'autre. Et dès qu'on vous entend jouer ensemble, on ne sait plus qui joue, c'est ça, c'est quelque chose de très mystérieux aussi.
Mais tout de suite, je peux juste dire, je pense à une parallèle naturelle pour nous, c'est quatuor à cordes, évidemment. Parce que chaque musicien dans les grands quatuors à cordes, si on écoute séparément, c'est absolument extraordinaire et très différent. Et quand eux jouent ensemble, c'est ça, le vrai ensemble, la vraie musique de chambre. Je pense qu'on ne pense plus du tout à nous, à moi, n'est-ce pas ? On pense à la création de ça, de ce qu'on fait, de cette musique. Donc du coup, c'est naturellement transformé. On change, évidemment, chacun de nous. C'est sûr qu'on change nos styles de joue, nos styles d'écoute, etc., pour arriver à un résultat qui nous convient.
Ce qui est incroyable dans ces duos pour deux pianos, c'est que vous nous faites découvrir un continent de musique. Je crois qu'il y a 500 concertos, Arthur, que vous avez mis au catalogue déjà.
Non, ils ne sont pas tous sur la plateforme, mais
Mais vous savez qu'il y a 500 concertos pour deux pianos.
Alors, j'ai pas compté, mais à peu près, oui, enfin, oui, comme ça, à la louche, oui.
Bon, on va pas avoir d'auditeurs assez vicieux pour les compter un à un, mais c'est quand même dingue, parce que quand on pense que, bon, on écoute Mozart, Poulain, qui sont des chefs-d'œuvre, et puis parfois Mendelssohn, mais de savoir qu'il y en a encore 497, c'est ahurissant, dont des concertos extraordinaires. Vous nous avez fait découvrir le concerto de Victor Babine, qui lui aussi, avec sa femme, formait un duo fabuleux. Il y a une tradition russe, comme ça, des duos pour deux pianos. Parce qu'il y a Brook Taïmanov.
Oui, Sorokina Bakhtchev et beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a une tradition russe? Je ne sais pas s'il y a une véritable tradition. Je pense qu'il y a eu, quand même au XXe siècle, une école de piano en Russie absolument extraordinaire, avec beaucoup, beaucoup de pianistes d'un très, très haut niveau musical et technique. Et quand, par miracle, par magie, deux d'entre eux ont décidé de jouer ensemble, bah, ça a pu mettre le duo de piano à un niveau très, très, très élevé.
Alors, parlons cuisine. Quand vous travaillez une œuvre pour deux pianos, vous travaillez à quatre mains, comment ça se passe? Vous asseyez, vous lisez ensemble? Ou chacun travaille de son côté, puis après vous travaillez...
C'est plutôt chacun travaille de son côté, évidemment. C'est double travail, en fait. Oui. Il faut d'abord travailler seul pour être prête, pour commencer à travailler et répéter avec partenaire. Et puis toujours comme ça. Après avoir travaillé ensemble, il faut toujours nettoyer tout ce qu'on a fait et travailler seul. Donc c'est noir, blanc, blanc, noir. C'est toujours ça.
Et vous avez des œuvres fétiches par lesquelles vous travaillez? Vous commencez une journée de travail ou pas du tout? C'est en fonction du répertoire que vous devez apprendre?
Oui, on ne peut pas. On a des vies aujourd'hui, c'est pas les vies rêvées des grands solistes de l'ancien temps qui pouvaient décider tous les matins de commencer par un prélude des fugues de Bach si ça leur chantait. Non, non, non. On a des emplois du temps beaucoup plus minutés que ça aujourd'hui, par la force des choses, et on travaille le répertoire qu'on doit travailler, et on doit être bien organisé en fonction des différents concerts, des différentes échéances qu'on a. Mais c'est très agréable, justement, il n'y a pas de monotonie. Et d'ailleurs, on a des méthodes de travail qui sont chacun très, très différentes, Ludmila et moi.
Ah bon ?
C'est très drôle. Pour préparer, pour se préparer individuellement avant de se retrouver, on entend très bien que l'autre travaille par des chemins différents, mais on arrive au même... Le plus important, c'est qu'on arrive à.
D'arriver ensemble.
Ensemble, oui.
Et c'est-à-dire, c'est.
Non, mais ça, je ne peux pas rentrer. Non, je ne rentre pas dans la cuisine quand même. C'est trop personnel.
Oui. Donc, on a évoqué Bizet, Debussy et leur succès de Dolly, de Gabriel Fauré. Donc, Dolly, qui était le surnom de la fille d'Emma Bardac, qu'elle avait eu avant de connaître Debussy. Donc, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est tous les liens aussi entre ces compositeurs. Louis Aubert était ami avec Ravel. Ravel qui lui a dédué ses valses nobles et sentimentales. Donc, tous ces génies se fréquentaient quand même aussi.
Bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs, on pourrait ajouter tellement de cycles, tellement de musique. Là, il y a juste un album, mais il y a plein d'histoires à raconter avec d'autres musiques et d'autres compositeurs.
Donc Dolly, comme les autres œuvres, c'est aussi tellement délicieux cette musique. Enfin, c'est un charme complètement irrésistible dès le début avec la berceuse. Et puis il y a Miaou qui n'est pas le cri du chat, mais je crois la manière dont Dolly appelait son frère.
Oui, elle n'arrivait pas à dire Raoul, alors elle l'appelait Monsieur Raoul, Miaou.
Et donc cette musique, est-ce que toutes ces œuvres sont très écrites au niveau des tempos au niveau des nuances, c'est la précision de tous ces compositeurs, même Bizet.
Je crois qu'on peut, oui, on peut dire ça. Tous les cycles sont très écrits, en tout cas avec énormément d'indications, mais tous laissent la place à l'imagination. Je ne crois pas que aucun n'attende une interprétation figée à la barbe de mesure, mais au contraire, avec tous ces titres évocateurs et une écriture précise, justement, ça permet de laisser libre cours à l'imagination pour créer l'image, ce qui est quand même le plus important dans cette musique. Donc il faut, bien sûr, il ne faut pas aller à l'encontre de des indications du compositeur, cela va de soi, mais on entend des interprétations parfois très, très variées, dans jeux d'enfants. J'ai le souvenir des Sœurs Labeck ou de Thal et Grothuysen qui prennent des risques, des tempi.
Vous, les tempi sont rapides aussi dans le jeu d'enfant.
Oui, mais pas. D'ailleurs, Thal et Grothuysen, ils jouent la toupie beaucoup, beaucoup plus vite encore.
Ah oui.
Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant. Mais les bulles de savon, ils les jouent très lentement. C'est, je trouve ça très intéressant aussi. Katia Maria Labeck aussi prennent des tempi parfois très audacieux pour créer des coups de crayon, des envolées. Nous, on a choisi nos images à nous. Je crois que le plus important, c'est que l'image passe.
Vous avez créé, on l'a dit, un festival à Rungis qui a lieu au début de l'automne chaque année. Le festival qui va s'ouvrir le 2 octobre prochain. Donc vous avez un lien privilégié avec la ville de Rungis. Et tout ça s'accompagne de masterclass. Ce que je trouve aussi particulièrement émouvant, c'est que vous transmettez à des jeunes duos, mais vous invitez aussi des duos vedettes. C'est-à-dire, vous parliez de Thal et Grothuysen, il y a une dernière aussi ce duo star américain, parce que vous pourriez jouer vous les vedettes en vous disant on n'invite pas de gens de très haut niveau pour uniquement se faire valoir par rapport à des jeunes. Il y a un parti pris à la fois de transmettre et un amour des autres duos aussi.
Bien sûr, je pense que c'est le but, hein, d'une telle entreprise, c'est de partager au plus grand nombre ce qu'il y a de mieux. Donc vouloir se mettre systématiquement en avant, ça n'aurait aucun sens, ce serait ridicule. Et nous, on apprend énormément de nos collègues, on a envie de partager, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'ils ont tous aussi quelque chose à transmettre au public, à nos jeunes.
Je pense que plus important que tout, c'est monter ce genre de musique de chambre, duo de piano, au niveau auquel elle doit être. Ça veut dire qu'il faut inviter les musiciens et le duo vraiment très professionnels, parce que malheureusement, encore beaucoup, on voit que le duo de piano, parfois, on voit ça comme quelque chose de deuxième degré, que quelque chose, ok, je ne peux pas jouer solo, donc c'est plus facile si on se met ensemble et on va jouer ensemble. Ce qui permet des pianistes, c'est ça ce qu'ils pensent, des pianistes peut-être pas si forts au niveau de technique aussi, de se cacher derrière son partenaire, ce qui n'est pas du tout la vérité. C'est-à-dire que le duo de piano, parfois, c'est même beaucoup plus difficile que jouer solo parce que vous êtes deux. Et il faut être très exigeant dans ce sens-là. C'est pour ça aussi que je pense que c'est absolument nécessaire de montrer au festival piano-piano les duos professionnels du monde entier pour qu'enfin le public comprenne qu'est-ce que c'est, finalement.
Ludmila, vous avez bien connu Sviatoslav Richter, qui a laissé quelques disques mémorables avec Benjamin Britten. Bon, ce n'était pas un duo constitué comme vous, mais je trouve que c'est très émouvant, les disques qu'ils ont enregistrés. Vous avez pu en parler avec Richter ou pas de ça?
Évidemment, j'ai parlé, mais c'était, je ne me souviens pas tout parce que ça fait des années et des années. Ce que je me souviens, c'est que c'est vrai qu'il prenait beaucoup de plaisir. Il a beaucoup, beaucoup aimé Britten. Il a beaucoup aimé sa musique. C'est pas par hasard qu'il a fait son opéra à son festival Tourne of a Screw. Et il a joué beaucoup de musique de Britten, sonate pour violoncelle,
oui,
notamment.
Son concerto pour la main gauche aussi.
Aussi, absolument. Et oui, il est enregistré avec lui. Je pense que Britten, il était peut-être un petit peu plus faible comme pianiste, mais il était magnifique compositeur, et donc c'était plutôt, comme vous dites, par beaucoup d'amitié et puis beaucoup de tendresse.
Mutuelle. Ouais. Donc on va revenir à ce disque Passage Secret. Mais j'adore le titre. On ne va pas demander qui l'a trouvé parce que après, je voudrais pas être à l'origine d'un conflit. Bon, alors Arthur lève le doigt. En tout cas, c'est un très beau titre. On va vous l'attribuer à tous les deux. Après Dolly, il y a cette œuvre sublime qui est Ma Merloy de Ravel. Alors, je trouve que bon, c'est que des chefs-d'œuvre sur ce disque. Mais je trouve que Ma Merloy, il y a quelque chose dans l'enfance qui est à la fois très mystérieux et assez bouleversant. Enfin, je trouve que quand on pense à Ravel et l'enfance, parce que quand on écoute Dolly, quand on écoute Jeux d'enfant de Bizet ou La petite fille de Debussy, on a un regard très tendre sur l'enfance.
Plus confortable.
Ce sont des chefs-d'œuvre, c'est sublime. Mais quand on écoute Ma Merloy, on a l'impression qu'il creuse encore le mystère
de
l'enfance.
C'est aussi Ravel, c'est lui-même qui est comme ça, c'est sûr.
Oui.
Je crois que pour moi, dans la musique de Ravel en général, il y a toujours un mélange de tendresse et angoisse en même temps. Et c'est ça ce qui nous ramène dans le jardin féerique, mais dans tous les sens. Enfin, ça réveille tellement d'émotions différentes, et notamment chez les enfants, je suis sûre, il faut. On ne peut pas être toujours dans le jardin paisible et tranquille, mais c'est vrai que c'est un génie qui plaude que même la thème de musique pour les enfants.
Moi, je me souviens, enfin, à titre personnel, excusez-moi, d'un concert où Carlo Maria Giulini, je ne sais pas, il y a 40 ans, avait dirigé l'Orchestre de Paris dans Ma Merloy de Ravel. Je ne sais pas, il a peut-être 80 ans à l'époque, enfin, c'était il y a 30 ans. Et on avait l'impression, justement, d'un homme âgé qui se penchait sur son enfance. Et c'était bouleversant. Enfin, il y a quelque chose comme ça de bouleversant dans cette œuvre.
Oui, oui. Et j'avoue qu'on a mis aussi tout notre cœur et tout notre savoir-faire dans ce cycle qu'on joue depuis très longtemps. Mais là, pour cet enregistrement, on s'est encore plus investi dans chaque pièce, dans chaque note, dans chaque compréhension de chaque phrase, chaque silence, parce qu'on pense qu'il y avait encore à creuser dans cette œuvre tellement elle est riche. En fait, c'est ce paradoxe entre le raffinement immense pianistique qu'il faut avoir pour vraiment la mettre en valeur et la simplicité de ton qu'exige Ravel, qu'exigeait Ravel même de ses interprètes dans cette œuvre. C'est pour ça qu'il voulait que ce soit joué par des enfants, parce qu'il sait que les enfants, ils se posent moins de questions, ils jouent tout simplement et c'est plus spontané.
D'ailleurs, il était déçu, je crois, à la création, parce que c'était Jeanne Leleu qui avait 14 ans, et puis une autre pianiste qui était un peu plus âgée que ce qu'il pensait.
Oui, il voulait que ce soit Mimi et Jean Godebski, qui avait 6 et 10 ans à l'époque. Mais il était absolument
très heureux.
Ravi, la création. Justement, il y a dans ce petit pousset... Dans Ladronette, il y a mille petites choses à aller chercher dans l'équilibre, dans l'ensemble, pour pas que ça fasse toujours clac, clac, clic, clac, clic, clac, que au niveau de la pédale aussi. Je pense que, et pour avoir aussi pas mal enseigné sur cette œuvre ces derniers temps et même récemment. On peut aller encore chercher plus loin, plus loin, plus loin.
C'est une œuvre qui a été, enfin, ce disque a été enregistré salle Colonne à Paris. C'est très compliqué d'enregistrer le quatre mains. C'est beaucoup plus difficile qu'un pianiste qui joue seul. Pour l'ingénieur du son, c'est un travail qui requiert d'autres.
Alors, non, le quatre mains, c'est sans doute pas si éloigné pour l'ingénieur du son que le piano solo.
C'est le deux pianos qui est redoutable. Problématique.
Ah oui, ça c'est le cauchemar de tous les ingénieurs du son.
Donc vous allez bientôt enregistrer, on en reparlera, des concertos pour deux pianos. Donc ça, on en parlera bien sûr à l'occasion. Ça reste aussi un passage secret, ça, où on peut dire...
dans la mesure où le concert est annoncé, on peut annoncer, bien sûr.
Donc trois concertos
Deux concertos et une œuvre pour deux pianos seuls. Donc qu'on joue à Besançon le 15 février prochain.
Et donc, il y aura notamment le concerto de Victor Babine que vous avez joué dans le cadre du Festival de Rungis, qui est une œuvre absolument magnifique aussi. Les deux autres œuvres, je n'ai pas le plaisir de les connaître.
Merci Frédéric. Oui, on adore ce concerto. On a hâte de le rejouer et on espère le rejouer beaucoup plus souvent. On est persuadé que c'est une œuvre qui pourrait faire partie du répertoire au même titre que celui de Poulenc et que le public irait l'écouter avec le même plaisir et le même enthousiasme. Et à côté de ça, on va enregistrer aussi le concerto d'une compositrice américaine, Dana Suisse. Ce sera la création française.
Et une compositrice de quelle époque?
Elle est née fin 19e ou tout début 20e, je ne sais plus.
Non, mais je ne voulais pas vous poser une colle, c'est juste pour la situer.
Elle est morte à la fin des années 70.
Et le concerto est écrit en 1941. C'est bien
donc
ça.
Aux États-Unis. Et une troisième œuvre, donc
une suite pour deux pianos de Amy Beach, écrite en 24.
Donc voilà, donc des œuvres première moitié du XXe siècle que vous allez interpréter avec l'orchestre de Franche-Comté, Victor Hugo, dirigé par son chef,
Jean-François
Verdier. Là, on va revenir à la dernière œuvre de votre disque, Passage secret, qui est l'œuvre la moins connue des cinq, qui est aussi un chef-d'œuvre de Louis Aubert, contemporain de Maurice Ravel. Enfin, il est né quasiment en même temps que Ravel, mais il est mort en 1968. Quand on pense qu'il y a certains de nos contemporains qui ont connu Louis Aubert. D'ailleurs, vous avez rencontré des gens qui ont connu Louis Aubert, vous avez pu discuter?
Oui, mais, oui, et notamment des membres de sa famille.
Ah bah, dites-nous deux mots de ça, parce que ils doivent être heureux que vous jouiez ce répertoire.
Oui, mais c'est à l'invitation de Manuel Cornejo, des amis de l'association des amis de Maurice Ravel, Manuel Cornejo, qui est une légende dans notre milieu, puisque c'est le grand spécialiste de Ravel aujourd'hui. Et donc, il est aussi intéressé à tout ce qui touche l'univers de Ravel, et donc y compris Louis Aubert. Il nous avait sollicité il y a quelques années pour participer à un concert en présence de plusieurs membres de la famille de Louis Aubert. C'était sa je ne me souviens plus, sa petite fille. C'était sa petite fille qui était là, notamment.
Donc cette œuvre Feuille d'image de 1930, alors aussi elle a des titres magnifiques, Confidence, Chanson de route, Sérénade, Des pays lointains, et Danse de l'ours en pluche, qui est aussi virtuose, pour terminer cette œuvre.
Ça c'est une autre histoire, parce qu'on avait parlé avec vous de Bizet, à quel point cette œuvre est virtuose et absolument incroyable. Et Louis Aubert, c'est pas la même histoire. Donc ça s'écrit comme pour maître et élève, c'est-à-dire que le maître il est à gauche et élève à droite, là-haut. Ça veut dire que pianiste qui joue de côté droite, il joue pratiquement quelques notes. Et tout le travail s'est fait par l'autre pianiste. Mais je peux vous dire que c'est peut-être dans quelques sens encore plus difficile. Parce que si on fait déchiffrage, si on partage le piano juste pour nous, dans un salon, le soir, dans la famille, c'est une chose. Mais quand il faut jouer vraiment et créer une œuvre sérieusement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut, avec ces trois notes, il faut être absolument dans la même onde que le pianiste qui joue pratiquement tout le reste. Mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Louis Aubert, on adore. Et d'ailleurs, en revenant à sa petite fille, sa famille, c'était quelques membres de sa famille aussi qui en a rencontré, qui étaient très contents, évidemment, d'attendre la musique de Louis Aubert, parce que malheureusement, c'est pas joué pas très souvent. Et il disait après le concert que, tiens, on ne le savait même pas à quel point la musique de notre grand-père est vraiment bien.
En tout cas, c'est merveilleux. On aura bien d'autres occasions de parler de piano, quatre mains, en fonction de tous vos projets, Ludmila et Arthur. Donc, je rappelle la parution de ce disque, Passage secret pour le label Alpha Classique, Bizet, Debussy, Fauré, Ravel et Auber. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités.
Merci beaucoup, Frédéric.
Merci beaucoup.